Nous sommes donc au Festival d'Angoulême, le dernier jour du festival. Nous sommes un peu fatigués, je pense. Alors, je suis ici et donc
le
croque-monsieur de Grégory Jarry arrive. Nous sommes au François 1er, sponsor officiel du Grand Papier, en train de boire notre 12e Perrier. Après avoir été pour la 7e fois aux toilettes.
Tu sais que c'est eux qui font interviewer, c'est pas toi qui c'est pas nous.
Ouais, non, mais je vais parler. Et nous sommes donc avec Philippe et surtout nos invités, les derniers invités du festival, Grégory Jarry et Ototé de la maison d'édition Fleubleu. Et on commence tout de suite avec la première question. Pouvez-vous un peu nous parler de votre structure? Quand avez-vous commencé? Pourquoi avez-vous commencé? Comment avez-vous commencé? Voilà, quelles sont un peu les motivations de départ et qui vous êtes, auteur, dessinateur, juste voilà. Pardon.
Moi je suis roman fautiste.
Roman fautiste, voilà, pour Grégory Jarry, j'arrivais pas à trouver le terme exact. Donc je passe peut-être la parole d'abord à Ototé.
Bonjour. Alors, dans la question du début, alors vous avez vu hors micro qu'on n'était pas tout à fait d'accord. Disons que nous, on a réellement commencé à bosser ensemble en 96, en fait. On avait un fanzine, comme tout le monde a fait des fanzines au début, quoi, avec photocopie, tout ça. On était une petite équipe, on faisait pas mal de choses ensemble. En créant des contraintes ou des choses comme ça, enfin, on s'exerçait, quoi. Et notre association date de la fin 96. Avant ça, le problème qui s'est posé, c'était surtout comment faire pour avoir un compte en banque. Donc pour avoir un compte en banque, il fallait être une structure, avoir une structure sociale, comment on appelle ça? On s'en fout, enfin bon. Voilà, une association, et donc à partir de là, on a continué à faire des numéros en imprimerie, et donc là, à ce moment-là, on était encore étudiants, on faisait pas les choses de manière professionnelle, en fait, on se posait pas vraiment la question, c'était juste l'idée de faire des trucs et de rigoler, et puis... C'est un peu aussi comme tous les fanzines, c'est-à-dire qu'au début on est une équipe qui peut être assez nombreuse et puis au bout d'un moment les envies sont pas les mêmes. Même ça peut arriver même que les gens qui étaient là au tout début et qui ont créé le truc s'en aillent et que des nouvelles personnes arrivent et puis mettent plein d'énergie dedans. Enfin voilà, c'est complètement. Et en 99, moi j'avais fini mon service civil. Rémi avait à peine fini son école, lui. Et toi, t'avais décidé d'arrêter. Et en 99, on a monté un atelier, en fait. On s'est adressé à la mairie de Poitiers pour leur demander des locaux. Et ça a marché. Donc on s'est retrouvé dans un appart à 3, plus... pas longtemps après, donc on s'est posé la question... l'idée, c'était, ouais, effectivement, à ce moment-là, ça nous taraudait de commencer à vivre de notre activité, quoi. Donc du coup...
Grégory Jarry.
Je vais rajouter un truc là-dessus, il y a une lecture commune, une culture et même une lecture commune qu'on a fait Thomas et moi, c'est on est très marqué par Harakiri, par toute l'expérience des éditions du Square et par Harakiri. Là c'est vraiment Thomas et moi, par rapport aux autres personnes qui ont fondé la structure, nous deux on se reconnaissait vachement dans cette aventure-là. Et on a fait la lecture de Bête et Méchant, c'est Bête et Méchant, de Cavana. Et dedans il dit qu'il a fait plein de boulot, il était dessinateur mais avant il a fait plein de boulot, il n'y arrivait jamais, il rentrait tard le soir, il faisait ses dessins et tout ça. Puis à un moment il en conclut que si on veut arriver à faire quelque chose artistiquement de valable, il faut faire ça à plein temps, quoi, qu'il faut laisser tomber son job et qu'il faut faire ça à plein temps. Et moi personnellement ça m'a vachement marqué, ça a toujours guidé ma manière de conduire les choses à Fleubleup, c'est-à-dire de toujours penser à un aspect, toujours se dire bon il faut qu'on en vive, il faut qu'on se dégage un salaire, coûte que coûte, et on essaie de se démerder comme ça, quoi. Voilà. Et Thomas, tu étais quand même assez d'accord avec ça, je pense, au départ. Ça a été une ligne de conduite depuis, en gros, en 2002, c'est en 2000 qu'on a recruté une première personne pour travailler avec nous. Donc on se payait pas ni rien et on a fini par obtenir des subventions pour pouvoir se payer à partir de 2002. Voilà. Et on a toujours continué, on a toujours été 4 ou 5 salariés sur la structure à partir de cette période-là. En France, on a la chance d'avoir des aides de l'État sur les salaires. On avait la chance parce que depuis le nouveau gouvernement,
c'est plus difficile à obtenir maintenant.
Mais on a la chance que la structure ait grossi et qu'elle puisse permettre de nous payer maintenant, ce qui n'était pas le cas au départ, quoi. Ce qui fait que finalement, on a toujours été une équipe de 4 ou 5 personnes. Au départ, avec des aides, la structure grossit et a pris le relais sur les aides. C'était d'ailleurs la volonté de ces politiques de l'époque, dans les années 2000. Voilà. Donc, c'est curieux, mais pour nous, finalement, ça a assez bien fonctionné, cette politique du gouvernement, quoi. Et on a vraiment pu exister grâce à ces trucs-là d'emploi aidé, etc., quoi.
Parce que ça, c'est juste, pour revenir là-dessus, c'est assez particulier des auteurs qu'on a pu rencontrer. La plupart ont, et comme à l'employé du mois aussi, un boulot alimentaire. Donc ici, ce n'est pas le cas. Et donc, qu'est-ce que vous faites alors, la structure, comment elle peut générer alors, quels sont les différents moyens de générer les budgets nécessaires pour ces cinq salaires, plus ou moins?
4,5. Au total.
Avant qu'on puisse se salarier, donc en 99 on a créé l'atelier, et justement à ce moment-là, le fait d'être en groupe, enfin de bosser dans le même atelier, faisait qu'on arrivait soit indépendamment, soit ensemble, à faire des boulots de commandes, de graphisme, d'illustration, des choses comme ça. Mais bon, c'était un peu épuisant, et parallèlement on continuait à fabriquer notre fanzine, quoi. Et le premier pas vers effectivement la professionnalisation, c'était de recruter quelqu'un pour faire la diffusion, pour s'occuper de la diffusion de la revue, en fait. On avait réfléchi à ça, c'est-à-dire qu'on voulait monter, on voulait faire grossir un peu notre fanzine, enfin que ça devienne un truc un peu épais, en invitant des gens, etc. Et il y avait effectivement ce problème de la diffusion, donc le fait de recruter quelqu'un, c'était pas mal. Et à partir de 2002, en fait, on s'est salarié aussi. Enfin, on a pu obtenir des aides de l'État parce qu'on a créé la librairie-galerie, le Feu Rouge. Voilà. Donc ça nous a permis de recruter une libraire et parallèlement aussi de nous salarier en partie sur notre activité. Et puis, notre activité, elle n'est pas seulement, enfin, en dehors de l'édition et nos travaux d'auteur, en fait, on fait des boulots de commande, en fait. Enfin, on a développé un truc peut-être assez particulier, c'est qu'on fait beaucoup d'ateliers avec des enfants, enfin, des ados, enfants, même des fois en bibliothèque avec des adultes, qui donnent lieu à des livres. Donc ça, c'est bien aussi parce que ça nous permet de bosser l'édition aussi, ce qui fait que des fois aussi il y a des bouquins qu'on trouve intéressants en dehors du contexte et qu'on peut sortir en librairie. Il y en a d'autres qui sont trop attachés au contexte dans lequel on les fait, donc on peut pas vraiment les sortir en librairie. Et puis on continue à faire des travaux de graphisme, mais qui pour le coup c'est pas... C'est la structure, c'est les éditions Flobeb qui facturent les travaux de commande. C'est plus comme avant où chacun faisait son truc et puis on était payé. Vas-y.
À propos justement des thunes qu'on gagne... C'est quelque chose de très important aussi entre Thomas et moi. La plupart des choses sont réalisées soit par Thomas, soit par moi, que ce soit les ateliers ou les travaux de graphisme. Et on s'est mis d'accord à un moment en se disant, on mutualise l'argent qu'on gagne. C'est-à-dire, ce que tu fais toi, Thomas, en tant que graphiste, va pas être pour ta pomme, et moi, ce que je fais en tant qu'atelier. On s'est dit, tout revient à Flubble Up et on se verse un salaire mensuel. Ce qui fait que, si vous voulez, on a une sorte de pot commun. Et on met tout l'argent qu'on gagne. Maintenant, des salariés de Flubble Up aussi font des ateliers, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, mais maintenant on a une graphiste qui s'est mise à faire des ateliers. Hélène, notre chargée de com, elle fait aussi quelques ateliers. Du coup, tout l'argent qu'on gagne est mutualisé et reversé intégralement aux éditions Flubble Up, sans aucun pourcentage pour nous, quoi. Mais ça nous permet de nous dégager tous un salaire. C'est aussi ce mode de fonctionnement un peu coopératif, socialiste, je sais pas comment on pourrait dire,
communiste,
ultra-gauchiste, qui permet qu'on vive tous de notre travail, quoi.
Donc là,
c'est vachement important, ça. C'est quand même une idée très très importante qu'on a théorisée, enfin pas théorisée, mais on en a vraiment discuté entre nous, etc., quoi.
Là, vous êtes donc complètement autonome, par exemple. Vous n'avez plus d'aide nulle part.
Si, on conserve. Là, on a une petite aide qui va s'arrêter bientôt sur le salaire de notre graphiste, en fait.
Non, mais c'est globalement, tout, on est à 80% d'autofinancement sur la structure, quoi, largement. Alors que quand on a commencé, on était plutôt à 20% d'autofinancement et à 80% de subventions. Aujourd'hui, on a complètement inversé la tendance. Et d'ailleurs, on réfléchit. Enfin, la maison d'édition marche de mieux en mieux. Nos livres génèrent de plus en plus d'argent. Et du coup, ça nous permet de faire de moins en moins d'ateliers ou de boulot de com. Enfin, disons que les ateliers, on en prend quand vraiment le truc est intéressant. Mais au départ, on répondait à toutes les commandes qu'on avait. Aujourd'hui, on peut sélectionner pour nous concentrer davantage sur la maison d'édition, quoi. Et le but, c'est quand même aussi d'essayer de faire vivre une maison d'édition à proprement parler, quoi, de qu'elle génère suffisamment de revenus, pardon, pour payer tout le monde, quoi.
Vous êtes à combien de publications par an, plus ou moins?
On a une dizaine de titres, en gros, mais tous ne sortent pas en librairie. Et puis sur la dizaine de titres, il y a aussi souvent une série de flipbooks qui fait 4 titres à la fois, mais qui, en termes, nous, d'efforts éditoriels, représente c'est pareil qu'un livre, en fait. Je précise juste un truc, tout à l'heure, Grégory a dit... Moi, quand je fais des ateliers, et Thomas, quand il fait du graphisme, ça revient au pot commun. C'est pas si mathématique. C'est-à-dire que Grégory, ça arrive qu'il fasse du graphisme aussi. Et puis oui, moi, oui, ça arrive que je fasse des ateliers. Enfin, c'est... Voilà.
Non, mais par contre, ce que je voulais... L'idée qui était importante, c'était qu'on mutualise nos revenus.
Et donc, du coup, ce qui est assez intéressant, nouveau, on parlait un fonctionnement un peu particulier par rapport aux autres maisons d'édition qu'on a pu interviewer. Et puis aussi, finalement, plus de variété sur la table aussi. Donc quand on va au festival et qu'on voit les différentes tables, quand on arrive chez Flublub, en tout cas, on voit qu'il y a différentes choses. Il y a ces bouquins issus des ateliers qui s'adressent peut-être à un public plus jeune, etc. Il y a plus de la bande dessinée qu'on va retrouver à l'Employé du Mois et chez d'autres. Et puis, il y a du roman photo aussi. Est-ce que l'un d'entre vous, l'un des deux, pourrait parler de ça ou... Même juste de parler de cette variété de livres aussi.
En fait, je vais dire un truc un peu théorique, mais c'est a posteriori, quoi. Disons que, en fait, Grégory et moi, on s'est rencontrés, on était jury étudiant d'un festival de cinéma. Et on a rencontré aussi Rémi, qui l'année d'après, en fait, a fait jury dans ce même...
Ouais, quoi ?
Rémi Lucas, ouais. Et moi, par ailleurs, je connaissais un autre des fondateurs de Flubble Up, on était bénévoles dans le même cinéma associatif. En fait, on s'est plus rencontrés autour du cinéma, en fait, et plus que de la bande dessinée, même si on avait des goûts communs. Voilà. Et en fait, il se trouve qu'on est arrivé aussi à un moment où tout ce qui était... toutes les grandes structures historiques du début des années 90, là, l'Asso, Frémok, Les Requins, Cornelius, Cipier, tout ça, avait déjà fait un gros travail au niveau du fond et de la forme de la bande dessinée, un gros travail de nouveauté, quoi, de rafraîchir de renouvellement, voilà. Et nous, on ne s'est pas posé la question, vraiment. On n'a pas dit, bon, bah, puisqu'ils font ça, on va faire ça. C'est juste que nous, dans notre évolution, ça nous apparaissait assez naturel, notamment quand on a monté quand on a fait la revue, à partir du Flubble Up numéro 11, quand on a voulu développer la revue, ça nous a paru assez naturel de se diriger vers d'autres formes que la bande dessinée elle-même. Toujours en restant dans des formes images plus texte, mais il se trouve qu'on a développé, donc notamment Grégory, mais on a notamment fait un numéro entier de Flubble Up autour du roman photo. Mais qui était quand même constitué, enfin la plupart des auteurs étaient des gens qui venaient de la bande dessinée, mais bon. Et il se trouve qu'on fait deux des spécificités de notre catalogue, c'est de faire du roman photo et du flipbook, qui sont pour moi des formes de livres qui sont à cheval entre le livre et le cinéma. C'est-à-dire que le roman photo, quand on le fait, ça nécessite un tournage, mais à l'arrivée, c'est sous forme d'un livre. Et le flipbook, ben, on le fait image par image, et puis à la fin, c'est un livre, quoi.
Et puis il y a aussi cette idée que je disais au départ qu'on publie tout ce qui peut se mettre sur du papier comme faisait Harakiri. C'est pour ça, c'est aussi des grands ancêtres pour nous, c'est qu'eux faisaient des romans photos déjà, ils faisaient pas des flipbooks, mais... Ils se posaient pas la question de ce qu'ils faisaient, c'était un esprit commun, c'était des auteurs, et nous on ressent ça aussi.
Avant tout, ils faisaient un magazine, c'était Harakiri. Après, le contenu, ils faisaient feu de tout bois parce qu'ils avaient pas du tout, ils se définissaient pas comme auteurs de BD, auteurs de romans photo, auteurs de texte, en fait, c'est surtout ça. Eux, c'était des humoristes, voilà. Et après, à partir de là.
Voilà, mais on se sent quand même assez proche de cette démarche, c'est pour ça aussi qu'on fait des romans photo, quoi. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut dire ? Sur le roman photo en particulier, moi j'y suis venu aussi parce que je suis pas dessinateur. Et que du coup j'écrivais des textes pour des dessinateurs, j'écrivais des nouvelles, etc. Puis à un moment donné, je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire des trucs tout seul, quoi. Et toujours avec cette idée d'Harakiri derrière, je me suis dit, tiens, quand même, il n'y a personne qui fait du roman photo et c'est quand même une chouette forme. Mes collègues m'ont encouragé et tout ça. Et mes premiers romans photo sont venus comme ça, quoi. Ouais.
Par rapport à votre visibilité, est-ce que vous faites d'autres festivals qu'Angoulême comment vous envisagez Par exemple, à Angoulême, il y a quelques années, vous étiez dans un endroit bien à vous, bien spécifique. Comment vous avez décidé de faire ça, en fait, de passer dans cet endroit? Et donc, ma première question, c'était quoi par rapport à la visibilité? Est-ce que vous faites d'autres festivals? Voilà, je suis fatigué, excusez-moi.
Oui, on fait d'autres festivals. Non, on fait notamment donc le festival de Colomiers, où on s'est vu cette année. Mais, enfin, Colomiers, on l'a fait 3 fois en tout sur 10 ans, hein, c'est pas énorme. Mais disons que les festivals, c'est déjà comme on a une activité donc salariée, du coup, donc on fait une 40aine d'heures par semaine. Donc les festivals, c'est souvent le week-end, donc du coup, c'est un peu un effort pour nous en plus. Et du coup, on n'en fait pas énormément, quoi. On sélectionne. Bon, Colomiers, c'est pas mal parce que les stands sont pas très chers. On a possibilité de faire des ateliers en plus là-bas. Donc ça fait que notre déplacement ne coûte pas trop cher. Et puis le festival est plutôt bien, je trouve. Enfin, on sent que les gens qui viennent ont une certaine culture. C'est plutôt agréable. Après, on fait des petits salons de temps en temps dans la région, dans notre région Poitou-Charentes, parce que justement, c'est pas trop loin, c'est pas trop fatigant. Et sinon, au coup par coup, ça dépend. Tous les ans, on a des propositions d'invitation, mais voilà.
On pense toujours à les festivals aussi en termes économiques, quoi. C'est-à-dire, comme il dit Thomas, on bosse toute la semaine. Flubble Up, c'est vraiment notre métier. Et du coup, s'il s'agit de travailler un week-end, on récupère les jours après. Donc voilà, ça fait quand même, ça nous coûte en termes de salaire là, de venir à Angoulême, ça nous coûte, ça mobilise toute l'équipe pendant 2 jours du week-end. Du coup, les personnes récupèrent leur temps de travail sur Angoulême, notre laser et tout ça, quoi. C'est pas bénévole, quoi, pour nous. Donc ça a un certain coût et on fait attention. Moi, Angoulême, c'est indispensable d'y être parce que c'est quand même un super salon, quoi. Mais
Et par rapport à, donc à ces, donc vous avez expérimenté peut-être, je sais pas si c'est le bon terme, mais ou l'autre formule il y a quelques années, et puis maintenant vous êtes sur un stand, on va dire traditionnel entre guillemets. Qu'est-ce qui ressort des deux? C'est quoi le meilleur?
En fait, c'était un peu un hasard. Je sais plus. Est-ce que nous, on avait. Enfin, disons que en 2006, ouais. Donc on a fait une boutique dans le centre-ville. Il se trouvait qu'on avait. Je sais plus comment on a trouvé ça par copain interposé. Donc il y a un des boulangers d'Angoulême qui a une boutique qui est vide toute l'année et qu'il prêtait déjà régulièrement avant à des petites structures pour le festival d'Angoulême. Et il se trouvait qu'en 2006, en fait, il y a plusieurs éditeurs éditeurs indépendants alternatifs, enfin qui notamment diffusés par le comptoir des indépendants, qui ne voulaient pas prendre de stand pour un problème de je sais pas. De mésentente avec le festival, en fait. Enfin, ils n'étaient pas contents de comment le festival se faisait, du coup ils voulaient protester. Du coup, c'est nous qui avons organisé la boutique, on a organisé dans cette boutique la vente de tous ces éditeurs-là, en fait. Voilà. Et bon, c'était un gros effort pour nous. C'était un moment important quand même parce que bon, du coup, c'était bien de l'essayer parce que on s'est rendu compte de plein de choses, notamment que cette année-là, nous, en tant que Flubble Up, on a vraiment rien gagné du tout. On n'a pas du tout existé. On était cachés par tout le monde, quoi. Et c'est voilà. Et par contre, en tant que libraire, bon, ça s'est plutôt pas mal passé. Enfin, il y a eu énormément de passages. Enfin, c'était quelque chose. Donc, du coup, l'année d'après, on a continué. Enfin, nous, on a dit, on va prendre la boutique juste pour Flubble Up. Donc on a fait ça 2 ans de suite. La deuxième année en 2007, il y avait une expo en face, donc il y avait quand même du passage, c'était pas mal. Mais la troisième année en 2008, c'était catastrophique. Et alors bon, on avait quand même cette idée d'être en marge du festival, enfin le côté un peu underground, tout ça, machin. Mais au bout d'un moment, on s'est dit, mais pourquoi on vient en festival? Finalement, c'est pour rencontrer des gens qu'on voit pas d'habitude, des gens qui connaissent pas nos livres, quoi. Et là, on se rendait compte que les gens qui venaient à la boutique, c'est les gens qui savaient que Flubble Up était là, donc les gens qui connaissaient notre site, qui connaissaient les bouquins. Et enfin, du coup, c'est un coup dans l'eau, quoi. Enfin, ça sert à rien. Et donc, d'où l'idée de retourner sur la bulle, même si ça coûte plus cher. Au moins, finalement, on s'y retrouve, je pense. Enfin, ça veut dire que finalement, il y a des nouvelles personnes qui vont lire nos livres. Et c'est ça qui est bien, quoi.
Mais je trouvais ça.
Préciser, c'est le fait de se mettre un peu comme ça en marge du festival, c'était aussi une manière de dire putain, les stands ils sont chers. Et voilà, on s'est dit on perdait moins d'argent en étant en marge, on gagnait du coup de l'argent alors qu'on vendait beaucoup moins de livres, mais on donnait pas une patente au festival comme ça. Je trouve ça quand même, pour des éditeurs de notre taille, là cette année ça nous coûte quoi, 3000 euros pour venir au festival d'Angoulême, c'est pas rien, quoi, vendre pour 3000 euros de bouquins.
3000 euros, c'est juste le stand, hein. Ouais. Stand plus gîte, mais après il y a tout ça. Le reste, quoi.
3000, mettons 3 500 € pour, en payant le défraiement des auteurs et tout ça, ça fait vraiment pas mal de thunes, quoi. Il faut vendre pas mal de bouquins. On va... Ouais, vas-y.
Plus que ça, parce qu'on a un auteur coréen en plus.
Ouais, ouais. On a une subvention. Enfin bon. En tout cas, ça coûte très cher de venir au festival. Il faut vendre beaucoup de livres. Et on rentabilise. L'année dernière, on a rentabilisé tout juste. Cette année, on va faire un peu mieux. Mais voilà quoi. Du coup, c'était aussi une manière de dire. Je sais pas si pour le festival, c'est possible de faire autrement et tout. Mais là, je trouve que c'est quand même un racket un peu difficile. C'est pas du racket parce que le festival est bien. Mais ça coûte cher aux structures de la taille des nôtres, quoi.
Mais je trouvais ça intéressant, ne fût-ce que de le faire une fois, cette idée de boutique, parce que ça, dans mon esprit, à moi personnellement, et je pense dans l'esprit de beaucoup de gens, c'était, enfin qui connaissent un peu les structures et le monde indépendant, c'était, moi, ça m'a fait comprendre que vous démarquiez des plus petites structures que vous et aussi des grandes, quoi. Vous aviez votre propre démarche, et ça, je trouvais ça très intéressant, quoi. Donc c'était bien au moins une année, c'était très bien de le faire, je pense.
Oui, du coup, ça a été assez important ça, dans notre démarche, enfin, justement, enfin, sans doute pour l'employé du mois aussi, mais surtout en étant au comptoir des indépendants, c'est une des raisons qui a motivé notre départ, justement, de chez ce diffuseur-distributeur qui est le comptoir des indépendants, donc qui diffuse l'association notamment. Et l'employé du mois. c'est que en étant justement dans le comptoir des indépendants, en arrivant après tous ces gros éditeurs, enfin tous ces éditeurs historiques que j'ai cités au départ, on se sentait on avait l'impression de passer toujours après les autres. En plus, on n'était pas à Paris, on est en province, donc ça rajoutait une difficulté. Du coup, c'était important, un moment de trouver sa voie avec un E ou avec un X, quoi. C'est-à-dire que de se démarquer, ouais, voilà, de dire voilà, bon, voilà. On avait fait aussi un petit journal pendant le Festival d'Angoulême 2000-2001, enfin ça. Des choses comme ça, ouais.
Si on regarde alors pas derrière mais devant soi, on en discutait là tantôt, des projets soit à court terme, à moyen ou à long terme, c'est quoi pour vous? Qu'est-ce que vous avez en tête ou qu'est-ce qui existe déjà maintenant quasiment
Peut-être aussi est-ce que au niveau de l'énergie, ça va? Vous êtes, vous tenez bien debout? Vous êtes prêt à affronter 10 ans comme... Non, pas là maintenant, mais comment oui, voilà, comment vous voyez les années qui viennent? Voilà.
Moi, personnellement, je pense que tout le secteur va se casser la gueule et que toutes les structures vont...
Coupe, David, coupe.
Non, c'est une blague. Quoi que, j'en sais rien. Non, je sais pas, je parle pas pour toi, Thomas. Moi, je pense que nous, ça fait 10 ans qu'on existe, presque 10 ans, enfin 8 ans qu'on est salarié. Pour le moment, ça va, quoi. On a des projets. La structure a toujours été en ascendance, quoi. Et depuis 8 ans, ça s'est jamais démenti. Il y a pas une année où on s'est dit, oh putain, cette année, ça va vraiment pas. On a toujours eu du bol, toujours un bouquin qui se vendait mieux cette année-là, toujours un truc qui est venu nous sauver, c'est vrai. Hein. Ou alors une grosse subvention qui tombait qu'on s'attendait pas. Ou du coup, même on sent que notre lectorat s'est développé. Là, cette année, moi, ça fait 2 ans que je suis pas venu à Angoulême, mais je suis vachement surpris. Je dédicace vachement de bouquins. Il y a plein de gens qui disent, ah, je connais et tout. Et ça me fait plaisir, quoi. C'est aussi une manière Angoulême de prendre cette température là, quoi. Après, concernant nos projets, on a vachement envie de faire plus de romans photos. Et en 2010, on a 3-4 projets de romans photos, 2010-2011, 4 livres différents quand même, c'est pas rien. Donc on va, je pense que c'est quand même une forme qu'on va expérimenter. On va aussi faire des bouquins coréens. On a entamé une série de livres avec un auteur coréen qui est là cette année. Et on a d'autres projets. C'est plus Thomas qui s'occupe de cet aspect-là. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire d'autre?
On va faire notamment ensemble un quatrième tome des colonies, de petite histoire des colonies françaises. On a chacun un projet perso, dont un Grégory en roman photo. Ça prend plus de temps.
Pour le quatrième tome de la petite histoire des colonies françaises, normalement, je l'annonce là, quasi officiellement, on devrait avoir une exposition à Angoulême l'année prochaine, l'expo coloniale. Et si jamais il n'y en a pas, il faudra vraiment... Alors là, on leur pète la gueule.
C'est bien noté.
Benoît Bouchard, t'as qu'à bien te tenir.
Une question comme ça, vous tirez à combien d'exemplaires les ouvrages?
Ça dépend des livres. Ouais, notre plus gros tirage, en une seule fois, je veux dire, c'est 4000. Et notre plus faible, ça doit être 500, mais en général, on est entre 1500, quoi.
Non.
La moyenne.
Non, c'est plus. C'est plus la
t'es sûr? Ouais, il est pas d'accord.
Non, c'est plus la moyenne. La moyenne, c'est plutôt je pense que c'est 2000 vraiment. Alors, si tu fais la moyenne avec les colonies, enfin avec tout ce qu'on tire à côté, de toute façon, ça change pas grand-chose. Mais en gros, c'est 2000 et les colonies, c'est ce qui marche le mieux chez nous. On tire ça à 4000 et là, c'est épuisé et on va retirer le tome 2 des colonies qui... Et le tome 1, on l'a tiré à 5000 en fait. Et le tome 3 à 4000, et déjà la moitié du tirage est parti là en un mois. Donc ça nous fait du bien justement, ce type de bouquin. C'est ça qui fait vivre aussi la structure, quoi.
Oui, c'est clair que ça doit faire du bien, c'est sûr. Philippe.
On peut, à mon avis, passer aux questions subsidiaires, s'il y a moins de bruit de vaisselle. Donc on a première petite question, c'est... si vous devez citer une bande dessinée, ou ça pourrait être un auteur, quelqu'un qui vous a vraiment marqué, alors soit plus jeune, soit ça pourrait être aussi plus récent, quelqu'un qui ou un livre qui a pu provoquer un déclic. Et alors évidemment, on devait choisir dans les auteurs de l'employé du mois, c'est assez clair. Donc on va rappeler nos prénoms, on est tous là. Non mais voilà, est-ce que
t'es sérieux pour l'employé du mois ou non?
J'ai un doute.
Moi, j'ai rien lu de l'employé
du mois,
j'ai jamais lu
la salle
du carré. Ouais, c'est difficile d'en choisir un, déjà. Ben, on a cité Cavana tout à l'heure pour Bête et Méchant, mais c'est vrai qu'en dehors de ça, moi, j'aime, enfin, toi aussi, j'imagine, mais j'aime bien lire justement ce genre d'aventure, quoi. Vécu de magazines, quoi. Notamment, il y a un bouquin qui est paru sur Métal Hurlant, vous rappelez, hein, un gros bouquin sur Métal Hurlant. Ou... des choses comme ça, c'est des choses que j'aime bien, mais enfin, en tout cas Bête et Méchant, ça m'avait marqué pour ça, pour cette aventure là après qu'est-ce qui m'a décidé de...
c'est pas...
ouais
ça peut être en ce moment ça peut être oui comme bon, vous avez parlé assez bien de Cavana et tout ça. Donc ça, c'est clair que c'est...
Ouais, il y a un auteur qui m'a vachement marqué, c'est Jean Tellet, les bandes dessinées de Jean Tellet, par exemple. Voilà, ça, c'est évident. Et sinon, peut-être l'auteur qui m'a le plus marqué, ou en ce moment, en tout cas, qui me fait le plus cogiter, c'est un hyper grand classique, mais je crois que je lis tout ce qui sort en France de lui, c'est Osamu Tezuka. Voilà, c'est le père de la BD japonaise, mais moi je suis vraiment comme auteur, je décortique la manière dont il écrit ses récits et dont il fait ses trucs et tout, et je trouve que il est super fort, et à chaque fois que je lis ses bouquins, ça me nourrit, et voilà quoi. Il y a aussi comment il s'appelle celui qui fait 20th Century Boys?
Naoki Urasawa.
Ouais, voilà. Ouais. Naoki Urasawa, et je trouve ça vachement bien. J'adore la bande dessinée en feuilleton comme ça. Vachement bien faite, intelligente, les scénarios très bien construits et tout. On a fait une petite tentative de ce côté-là avec Thomas, ça s'appelait La Conquête de Mars en deux volumes, et c'est clairement référencé à la bande dessinée japonaise, à Tezuka et tout ça. Non ?
Si. Moi, j'ai pas fini. En fait, moi j'aime bien Tezuka aussi, mais je crois que ce que j'aime le mieux relire et qui me motive le plus en tant qu'auteur, c'est peut-être plus à la bande dessinée américaine. Plutôt autobiographique. Alors, chez l'employé du mois, il y avait Phase 7 que j'ai bien aimé cette année. Et un auteur auquel je reviens tout le temps, c'est Chester Brown, en fait. Même s'il n'est pas très bien édité en France, en langue française en tout cas. Et un bouquin qui m'a vraiment, vraiment marqué de lui, c'est Ed the Happy Clown, qui n'est toujours pas édité. Parce qu'il est en train de le refaire, je crois. Il est en train de le refaire. Et du coup, il n'est toujours pas reparu au Canada. Et donc moi j'ai une ancienne édition qui est toute pourrie, mais c'est un bouquin, je le relis, je sais pas, deux fois, trois fois par an, c'est un truc, voilà. Mais, voilà.
Et cela dit, on lit pas beaucoup de bandes dessinées, enfin vous dites ouais, quels sont l'auteur qui vous marque, mais moi les gens qui me marquent sont autant dans la littérature que dans le cinéma, quoi. Thomas et moi on est des fins connaisseurs du cinéma mondial. Surtout, quand même on connaît bien le cinéma et on regarde beaucoup de films. Et je pêche mes idées, mon inspiration et mon envie de continuer à faire de la création autant dans le cinéma que dans la bande dessinée. En ce moment, je regarde plein de films de Sidney Lumet, par exemple. Je trouve ça un super grand cinéaste qui a la classe et qui des fois loupe un ou deux films, mais c'est quand même bien. Voilà.
Nilso nous disait un peu la même chose aussi. Hein. Enfin, nous a beaucoup parlé de musique, et quand on lui a posé cette question-là, il nous a relancé sur la musique en nous parlant de toute une série de groupes ou de chanteurs qui l'avaient vraiment motivé à dessiner, justement.
Moi, ma culture n'est pas du tout musicale, quoi. À part Amaya Rodriguez, je connais rien, quoi.
Ça, on coupera aussi. Ok. Et la dernière question, alors ?
C'est moi qui la pose. Ah bon, alors je la pose. Par rapport à 6h du matin. c'est simplement une question par rapport aux 24 heures de la bande dessinée. Donc nous, on organise, ça fait 2 ans qu'on organise des 24 heures de bande dessinée. Donc on a organisé deux fois à Bruxelles. Donc on voulait un peu, on demandait à toutes les personnes qu'on interviewe ce qu'ils pensent des 24 heures de bande dessinée, s'ils en ont fait un, s'ils aiment ça, s'ils détestent ça, si ça les laisse indifférents, une impression.
Alors moi j'ai fait le dernier de grand papier, donc de l'enveloppe. Ouais, mais j'ai foiré en fait. Enfin, j'ai pas réussi à terminer. Mais je l'ai fait à distance aussi. Je pense que, comme disait Rémi Lucas, il est allé à Bruxelles et il disait mais quand t'es dans l'ambiance, c'est vachement bien et tout. Puis moi j'étais tout seul, j'étais avec Julien à la maison. Et c'était un petit peu difficile de terminer. Après, j'aime bien les contraintes de création comme ça, c'est toujours assez motivant. Après, en tant que lecteur, autant les 24 heures de grand papier que celle par exemple de la maison des auteurs d'Angoulême, j'ai du mal à lire en général les choses de 24 heures. Et de temps en temps, je lis forcément Rémi parce que. mais j'ai du mal à. Je sais pas. Je sais pas pourquoi.
Ouais, moi je trouve que la contrainte est intéressante, mais globalement je trouve qu'il n'en ressort pas grand chose de très bien. Je trouve que les gens sont. Du coup, pour moi, la création ça se fait pas quand on est crevé tous ensemble et tout. Mais cela dit, l'initiative est vachement bien.
Ça peut être un bon départ.
Ouais, ça peut être un bon départ, mais après il faudrait retravailler les idées. Enfin, s'il y avait un livre qui devait sortir de ça, il faudrait que ce soit rebossé, que l'auteur revienne dessus. Ça peut être un point de départ pour quelque chose, je trouve. Le truc que je trouve vachement bien, c'est le côté festif, le côté de se retrouver entre auteurs et tout, et de foncer pendant 24 heures. Par contre, j'ai horreur des 24 heures du Mans.
Parfait, je pense qu'on a terminé. Donc, merci, et à vous deux.
Je l'ai jamais fait parce que je n'arriverai pas à faire ça. Quoi. 24 heures, mais même en roman photo, 24 heures, tenir réveillé 24 heures et tout ça. Je suis un gros dormeur et puis j'ai deux gosses qui m'empêchent de dormir tout le temps. Alors.
C'est pour ça qu'on pose la question aussi, c'est parce qu'on tout doucement on commence à recruter, on est en janvier, on va le faire en juin, donc on tâte un peu le terrain chez tout le monde, comme ça.
Vous m'envoyez après en disant qu'on a
oui, tu peux tricher, bien sûr, ça c'est pas un problème.
Ah, mais si on peut tricher, alors on va voir.
Et intégrer la contrainte quand même, enfin prévoir un truc.
Ça peut être en roman photo ou c'est que en BD?
Ah non, à mon avis, c'est ouvert.
Ce que tu veux, ça peut être en ce que tu veux. D'ailleurs, on vous passe un bic et un petit contrat, si vous pouvez signer là en bas. Mais en tout cas, merci à tous les deux. Et à bientôt.
Merci.
Merci beaucoup.